Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale
infernale.
Et oui, nous sommes samedi matin et la matinale infernale est de retour. Cette émission qui est en partenariat avec Graphite et les bibliothèques de Compiègne et qui vise à former des amateurs sur la création de chroniques pour la radio qui sont transformées ensuite en émission, la matinale infernale. Ce matin, nous sommes avec les participants de l'atelier des bibliothèques de Compiègne directement à la bibliothèque. Et nous sommes donc avec Fatih la féministe, Marion les handicaps en question, Patty la littérature, l'argent et nous, Benjamin et les addictions. Bonjour, bonjour mes chroniqueurs.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et moi je vous propose que ce matin, on commence avec un sujet chaud bouillant, sans doute comme votre café. Et c'est Benjamin qui va nous réveiller avec sa chronique sur les addictions et le sexe.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation sur l'addiction au sexe sous forme de quiz. Première question, quels sont les signes d'addiction au sexe?
Bah, on sort pas du lit.
On réveille comme ça. C'est ça. On est toujours au lit, là. Bon, on n'est pas addict alors, on est déjà sorti.
Nous, on est déjà sorti du lit.
Certaines personnes ont une vie sexuelle épanouie et bien remplie, sans que cela ne révèle de la pathologie. Il convient de s'inquiéter lorsque les pensées et les pratiques sexuelles ne sont plus uniquement synonymes de plaisir, mais qu'elles deviennent obsessionnelles et créant des souffrances. De la souffrance.
Eh oui, on en revient toujours à l'obsession à chaque fois, hein, quand c'est l'addiction.
De façon plus pragmatique, on peut désigner certains comportements qui régissent à la vie d'un sexe addict. Consommation fréquente de contenu porno généralement associé à la masturbation. Filtre sexuel qui consiste à une interprétation de...
Respire.
Il y a beaucoup de mots, ouais.
Interprétation de chaque situation de la vie quotidienne sous l'angle érotique et sexuel, relations sexuelles multiples et fréquentes réagit par un besoin incontrôlable, difficulté à se contenter d'un seul partenaire, même dans une relation amoureuse épanouie, prise de risque que ce soit à cause de l'absence de protection de la relation avec des inconnus potentiellement dangereux, etc. Addiction sexuelle prend donc des formes variées avec une dépendance virtuelle et ou charnelle et une pratique compulsive et solitaire et ou via la relation avec autrui.
Eh bien...
Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous êtes probablement sujet à l'addiction au sexe. N'hésitez pas à passer le test de Carnes pour en savoir plus et en consulter un addictologue spécialisé pour confirmer ou infirmer de diagnostic et ainsi mettre en place la thérapie adéquate.
Ah, parce que là, c'est une thérapie quoi, directe.
Oui.
Donc il y a un test qu'on peut passer pour savoir si on est addict au sexe ou pas.
Oui.
Intéressant.
Deuxième question, quelles conséquences peuvent avoir les comportements sexuels addictifs?
On interprète, comme on dit, on interprète tout sous le regard. Donc on imagine que n'importe quel autrui, parce que c'est homme ou femme, j'imagine, il a envie de ça, quoi.
Ça a une obsession perpétuelle.
Aux yeux de beaucoup de gens, l'addiction au sexe n'est pas considérée comme un véritable problème et prête parfois à même à sourire. La réalité est tout autre car comme toute addiction comportementale, celle-ci peut avoir des conséquences dramatiques sur les individus addicts. Le caractère obsessionnel du sexe devient envahissant, rendant la concentration difficile et obligeant parfois le sexe addict à mettre d'autres pans de sa vie de côté. L'hypersexualité a aussi bien évidemment des conséquences sociales. Elle rend compliquées les relations amoureuses stables qui sont polluées par l'adultère ou un désir non équivalent entre les deux partenaires.
Eh oui, forcément. S'il y en a un qui veut tout le temps, puis l'autre, au bout d'un moment...
Oui. Et si l'on va plus loin, il faut savoir que l'addiction au sexe crée des sentiments négatifs comme la culpabilité, la honte, la tristesse, la solitude et peut même mener la dépression, voire au suicide.
Et oui, comme toutes les addictions, finalement, on retrouve le penchant un peu dépressif.
Sans oublier les risques pour la santé de l'hypersexualité, le comportement compulsif fait parfois complètement oublier les dangers des rapports sexuels non protégés qui peuvent pourtant être à l'origine de maladies plus ou moins graves. Et après avoir obtenu satisfaction et avoir comblé son manque, la personne peut ressentir de la culpabilité et de l'anxiété par rapport à cette relation non protégée, ne faisant qu'accentuer son mal-être.
Oui.
Troisième question, y a-t-il des causes déterminées à cette addiction comportementale ?
Alors là,
quelles pourraient être les causes ?
L'enfance, en général, tout vient toujours de l'enfance.
Oui, ben voilà, c'est comme l'autisme, c'est la mère, quoi.
Alors, dites pas de bêtises, hein. Je suis pas d'accord.
Non.
Ouais. On est sur les clichés. Dis-nous tout, Benjamin.
Comme avec toute autre addiction, la sexualité compulsive émane de plusieurs facteurs. Certains individus sont plus à risque, notamment lorsqu'ils souffrent d'une mauvaise estime d'eux-mêmes, d'une anxiété généralisée, d'un manque d'affectif, etc.
D'accord.
De nombreux facteurs environnementaux sont aussi à mettre en cause lors du développement d'une addiction sexuelle. Les abus sexuels durant l'enfance ou des situations de violence familiale, même sans acte sexuel.
Oui, donc il y a bien l'enfance.
Ce qui provoque aussi derrière le manque d'estime de soi.
Voilà, tout à fait.
Tout est lié, quoi.
L'abandon pendant l'enfance ou manque d'affection et d'attention dans la sphère familiale. L'exposition précoce du contenu pornographique, la facilité d'accès à la pornographie sur Internet rendent le sexe disponible de suite et en continu et mettant en avant des pratiques toujours plus extrêmes.
Oui, d'où l'intérêt.
On dit que c'est de plus en plus jeune, hein, maintenant, ils ont accès à des vidéos.
C'est facile pour eux. Quatrième et dernière question, comment soigner une addiction au sexe ?
Il semble que tout à l'heure, tu parlais de thérapie directement. Hein.
S'il est facile de trouver des centres d'addictologues pour se sévrer d'alcool, du tabac ou de drogue, il existe moins de structures et de spécialistes dédiés aux soins de l'addiction sexuelle. Néanmoins, des professionnels peuvent vous aider si vous voulez mettre fin au cercle vicieux de la sexualité compulsive et de la dépendance. L'idéal est de consulter un psychothérapeute spécialisé dans les addictions comportementales, un psychologue ou un psychiatre sera posé le bon diagnostic et met en place la thérapie adaptée. En complément, il pourra prescrire un traitement médicamenteux visant à calmer l'anxiété et réguler l'humeur pour faciliter le retour à une vie plus sereine. Contrairement à d'autres addictions, le but ici n'est pas de mener au sevrage du patient car le sexe fait partie intégrante de la vie et n'est pas dangereux lorsqu'il est pratiqué de façon non pathologique. Le travail avec le thérapeute aurait pour objectif d'aider le patient à appréhender le sexe autrement, à reprendre le contrôle et à traiter les problèmes sous-jacentes à l'addiction. Dans certains cas, il serait pertinent de passer également une partie thérapeutique de couple afin que la conjointe soit aussi pris en charge et que les personnes dépendantes se sentent soutenues. Il existe également des groupes et des associations d'entraide créées pour aider à la liberté, la parole, à déculpabiliser les individus dépendants et les accompagner vers différentes thérapies.
Eh bien, oui, comme...
Sans la souffrance, hein, quand même, dans ce genre de...
Eh bien, dès que ça a le côté social aussi, en fait, ouais. Finalement. Donc, voilà. Mais ça me fait penser un peu à l'addiction au sport dont tu nous avais parlé précédemment. C'est pas quelque chose qu'on doit arrêter, comme effectivement ouais. L'alcool ou le tabac, ou j'en sais rien. Il faut arriver à trouver un équilibre, et c'est ça qui est difficile, j'imagine, aussi. Ouais. Eh bien, dis donc, avec cette chronique de bon matin... J'espère que, chers auditeurs, vous vous êtes levés du bon pied, puisqu'on enchaîne avec Fatih la féministe, qui va nous parler de l'image de la femme dans les médias.
Hello tout le monde, petite chronique toujours du samedi matin, histoire de bien commencer le week-end, pour vous parler de l'image de la femme véhiculée par nos médias. Cette femme-là n'est-elle pas souvent trop parfaite et éloignée de la réalité ? Car en plus, cette femme idéalement parfaite n'est bien souvent qu'un corps qui s'impose comme un modèle unique. Alors que les femmes sont bien diverses, petites, grandes, minces, rondes. En fait, cette image idéalisée a été construite par les hommes et pour les hommes. La plupart du temps pour vendre quelque chose, une voiture, un contrat d'assurance. Bon, j'avoue que pour ma part, j'adore quand même les pubs pour Audi avec une femme au volant. Alors, voyez-vous, nous, les femmes, subissons ce modèle sans forcément nous en rendre compte, à tel point que beaucoup pensent devoir ressembler à cette femme idéale. Alors, femmes du monde entier, dénonçons cette fabrication imaginaire issue du patriarcat. Ouais! Mais qu'est-ce que le patriarcat? Allez, petite définition issue du Larousse. Le patriarcat est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Le patriarcat excelle à travers le sexisme. Vous voyez cette attitude discriminatoire fondée sur le sexe. Donc, vous l'aurez compris, quand on met en scène une femme dans une situation où elle apparaît plus comme un objet de séduction que comme une personne, eh bien, on est sexiste. De là à dire que Photoshop et tous les filtres de nos chères applis sont aussi un pur produit patriarcal, il n'y a qu'un pas. Oui, vous savez, toutes ces retouches photographiques qui contribuent à fabriquer un corps irréel auquel voudraient se conformer femmes et jeunes filles.
Ah, tu veux dire que garçons, celui quand on se réveille et qu'on est déjà toute maquillée, toute belle, là.
Oui, c'est ça. Lissage du visage, agrandissement des yeux, affinement de nos limites, gommage de toute imperfection. Conséquences, troubles alimentaires, complexes physiques, honte de sa propre apparence... Ceci dit, l'image de la femme véhiculée par les médias a quand même évolué, hein, comme on atteste la représentation de la femme au cinéma. À ses débuts, on y voyait des femmes fragiles, enfin, à ses débuts de ma génération, bien sûr, bref. On y voyait des femmes fragiles, créatures protégées par les hommes, incapables de se défendre et hurlant dans les aigus en cas de danger. La Ref, King Kong, Tarzan... Années 70, dans les séries TV, la parfaite femme au foyer, notre chère Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, mais qui était aussi une sacrée sorcière aux grandes dames de ces messieurs. Années 80-90, la femme est héroïne forte, à l'instar de Sigourney Weaver dans Alien. Mais c'est pas vraiment une femme en fait. Années 2000, nous avons...
Tout le monde prend cher.
Années 2000, nous avons Uma Thurman, vengeresse dans Kill Bill, sans oublier Tomb Raider et la belle Angelina Jolie, j'étais amoureuse d'elle, mais bon. Mais... non, c'est faux. Mais que d'actrices belles et sexy, mais dites-moi. Ouais. Ne pourrait-on pas développer des personnages féminins forts et populaires, mais au physique lambda, comme toi et moi, quoi ? Eh bien, là encore.
Et moi ?
Et toi ? Et moi ?
C'est un peu la tendance quand même. Je trouve que les actrices actuellement, elles font un peu moins star.
Il y avait une série Ugly Betty.
C'est vrai.
Elle était moche.
Oh. Eh bien, là encore, le mouvement est en marche avec Elizabeth Moss, avec son corps. Normal, si je puis dire, dans La Servante écarlate. Une société patriarcale où les femmes n'ont que 3 rôles, repérés par un code couleur en plus. Bref, je vous invite à la regarder si le sujet vous intéresse. Plus récemment, évoquons Cardi B. Allez, je vous raconte. Cardi B avec Megan Thee Stallion, désolée pour l'accent, sont deux rappeuses qui cartonnent sur les réseaux sociaux avec leur titre sulfureux. WAP, wet as pussy. Bref, en argot américain, ça veut dire vagin lubrifié. Très écouté, clip très visionné, mais aussi très controversé. Je dirais que c'est à la fois une ode au plaisir, au désir, à l'anatomie, tout ça féminin, mais aussi à la débauche. Dans le clip, elle déambule en talons aiguilles et body dans une riche demeure aux couleurs pastel où se succèdent félins, insinuations sexuelles et formes généreuses. Sexe et argent, n'est-ce pas, Patty ?
Tout à fait.
Et addiction au sexe, n'est-ce pas, Benjamin ?
Tout à fait.
Mais aussi sexe et politique. Et oui, parce que le corps de la femme est encore un enjeu politique et civilisationnel. Et là, c'est bien la prochaine ligne à faire bouger. Je m'en vais donc vous relater quelques réactions politiques de nos chers ricains. Un député républicain a tweeté « WAP » que j'ai entendu par hasard, oui c'est ça mon œil, m'a donné envie de me verser de l'eau bénite dans les oreilles. Ben Shapiro, éminent éditorialiste conservateur, a lui dénoncé la vidéo comme une régression pour le mouvement féministe, ce qui lui a valu de nombreuses moqueries. Du coup, évidemment, sur les réseaux, certains ou certaines ont fait remarquer que les mêmes conservateurs soutenaient un président, Donald Trump, qui s'était vanté en des termes tout à fait vulgaires, excusez-moi, je mets des guillemets, d'attraper les femmes par la chatte. Je conclue ici en reprenant les propos d'un spécialiste des médias qui travaille dans une super université, bref, à Washington. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Le patriarcat punit toujours les femmes qui parlent de leurs expériences sexuelles. Une femme victime d'agressions sexuelles se voit reprocher son consentement, son comportement ou sa tenue. Une femme qui parle de plaisir sexuel est, elle, immorale. » J'ai aussi apprécié les propos d'une éminente gynécologue qui s'appelle, et éditorialiste au passage, Jane Gunter, bref, je ne la connais pas personnellement, mais elle a dit « Notre société donne honte aux femmes qui parlent de leur corps. Il n'y a rien de plus dangereux pour les hommes faibles qu'une femme qui revendique sa sexualité. » Elle dit aussi que WAP, donc le fameux titre de la chanson WAP, permet aux femmes de s'exprimer comme les hommes s'expriment. « C'est un formidable pas en avant, » dit-elle. Bah là, j'en suis pas si sûre du pas en avant. Bon, bah oui, parce que moi, je préfère en rester à mes rêves d'ado. Wonder Woman et Super Jimmy, elles m'ont tellement inspirée. Mais comme mes profs m'ont aussi appris à développer mon esprit critique, ces héroïnes sont restées de simples modèles inspirants et inimitables, bien entendu. Inutile donc d'imiter Cardi B. Enfin, à bon entendeur, bonne journée. Hein.
Eh bien écoute, puisqu'on en a tant parlé, je propose qu'on l'écoute cette chanson.
Ah oui, allons-y. WAP.
C'est parti.
I said certified free, 7 days a week. Wet ass pussy, make that pull out game weak. Yeah, 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 yeah. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a kegel, while it's inside. Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's roleplay, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it cream, make me scream. Out in public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring.
Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quick, yeah. Jump out for you, let it get inside of me. I tell him where to put it, never tell him where I'm about to be. I run down on him before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. While you really ain't never got him fucking for a thing. He already made his mind up before he came. Now get your boots, hang your coat. Fuck this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see. Some wet ass pussy.
Look, I need a hard hit, I need a deep stroke. I need a Henny drink, I need a weed smoke. Not a garden snake, I need a King Cobra with a hook in it, hope it lean over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like his credit. He got a beard, well, I'm tryna wet it. I let him taste it, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna gulp. I wanna gag, I wanna choke. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My hagem is fire, punani the sunny. It's going and drying, it's coming outside. Yeah, I run on that thing, the cuz behind me. I spit on his mic and I heat tryna sign me.
Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fuck me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name.
Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass pussy, huh?
Et nous sommes de retour dans la matinale
infernale.
Et nous, on n'arrête jamais. On est toujours sur Radio Graphite 94.9. Et on vous conseille quand même d'aller voir le clip de la musique qui vient de passer, hein, pour les raisons que Fatih a largement expliquées.
Talons aiguilles, body.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait tourner le monde à part le sexe ?
L'argent.
Eh oui, l'argent. Eh bien, on enchaîne avec Patty, la littérature, l'argent et nous.
Et la question du jour, bonjour chers auditeurs, c'est pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ? Eh bien, cette question est le titre du livre de Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, tous les deux chercheurs en sociologie au CNRS, illustré de façon humoristique par Étienne Lécroart. Il est sous-titré « Mon premier manuel de pensée critique », publié aux éditions La Ville Brûle, paru en 2014, plutôt destiné aux jeunes. L'ouvrage aborde la répartition de l'argent, c'est-à-dire comment l'argent du portefeuille géant de la France se répartit au sein de notre société française. La société française décrite est composée de différents groupes appelés classes sociales. Elles définissent la place occupée dans la société avec plus ou moins de pouvoir et de richesse. Elles s'organisent pour défendre leurs intérêts. Schématiquement, il y a les pauvres, la classe moyenne et les riches, parmi lesquels on ajoute les super riches. Bravo.
Toujours plus.
Toujours plus. Les différentes classes sociales luttent pour leur part de gâteau. Et malgré tout, leur part du gâteau sont très inégales. L'inégalité financière existe vraiment. En voici le tableau à grands coups de pinceau. Les SDF possèdent peu de choses, pas de toit, pas d'emploi, parfois un baluchon avec quelques affaires. Les riches roulent dans de superbes voitures, possèdent des yachts capables de traverser les océans, habitent de somptueuses villas entourées de jardins magnifiques. Et ils gagnent en un mois ce que d'autres ne pourront jamais gagner en une vie entière de travail. Parallèlement, de plus en plus de personnes vivent dans la pauvreté. Certaines sont sans emploi, d'autres, tout en travaillant, n'ont pas assez pour bien se soigner ou partir en vacances. Cette situation est vouée à perdurer et les inégalités à se reproduire si l'on ne modifie pas cette société qui produit richesse et pauvreté. Il faut donc, selon les auteurs, voir le monde tel qu'il est, le critiquer pour le changer. Alors, savez-vous d'où provient l'inégalité? Vous avez une idée?
Non, des origines?
Oui, en partie. On en parlera tout à l'heure. Mais tout simplement à cause de la possibilité de stocker et de faire des réserves. Certains ont accumulé plus que d'autres et ont transmis leurs richesses à leurs enfants, rendant leur famille plus puissante au fil des générations. Les propriétaires des outils de production gagnent plus que les personnes qui produisent, c'est-à-dire qui travaillent. Leurs gains progressent plus vite que les salaires. Ainsi, au cours des 20 dernières années, les bénéfices de l'entreprise de pneus Michelin ont augmenté 10 fois plus vite que les salaires. À noter que l'on parle de salaire minimum et de profit maximum. Les auteurs se sont intéressés aux riches et à la richesse, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Et selon vous, de quoi est faite une grande richesse?
Une grande richesse?
Une grande richesse.
De lingots d'or.
D'amis sincères.
Plusieurs propriétés.
Alors, vous avez envie de répondre de beaucoup d'argent avec les lingots d'or. Un gros magot en argot, un capital financier. Mais ce n'est pas tout. Il y a bien d'autres choses. Il existe plusieurs sortes de capital. Le capital financier, le plus évident, mais il ne suffit pas. Le capital culturel, tableaux de grands peintres, livres, discussions, rencontres avec des personnes remarquables dans leur domaine. Les riches héritiers baignent dans ce capital culturel dès leur plus jeune âge. Le capital social, il s'agit du réseau relationnel, invitations, réunions de personnes influentes dans différents domaines. Et enfin, le capital symbolique. Le patronyme, souvent connu depuis plusieurs générations. L'élégance, la façon de s'exprimer. C'est l'ensemble de ces richesses qui donne aux membres de la classe dominante son pouvoir. Les enfants reçoivent tout cela à leur naissance. Alors, petite question de choix. Selon vous, quelle source d'argent est la plus grande? Le talent développé au cours d'une vie ou bien l'héritage de la source des revenus?
Le talent. Si c'est au cours d'une vie, en plus, ça veut dire qu'on a appris des choses, donc on s'est enrichi au fil du temps.
Non. C'est évidemment la seconde. Pourquoi? Parce qu'un talent n'est pas automatiquement transmissible.
Ah oui.
Oui.
Comment les riches sont devenus riches? Autrefois, c'était dans l'industrie. Par exemple, Michelin, fabricant de pneus, Wendel, dans la sidérurgie. Ou bien dans la banque. Prêter de l'argent au roi, puis aux industriels, puis aux États, ont permis aux familles Rothschild et Lazare de devenir riches dès la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'informatique et Internet sont à l'origine de fortunes, comme celle de Xavier Niel, le fondateur de Free. Bernard Arnault a fait fortune dans...
Le luxe.
Oui, dans l'industrie du luxe, exactement. La spéculation financière est aussi un moyen de s'enrichir. Comme on parie sur un cheval, c'est parier sur la valeur d'une entreprise, d'une monnaie ou sur des produits comme le riz, le blé ou le sucre. Ce moyen ne produit aucune richesse matérielle concrète, réelle, ni d'emploi. Mais cependant, la spéculation peut conduire à devenir super riche. ce dont nous parlerons à la prochaine chronique.
Ah là là, super riche, ça fait rêver un petit peu quand même.
Le luxe, les yachts,
ouais.
Les voitures, enfin, pour qui ? Pas pour moi.
Écoute, moi je ne sais pas si en écrivant on peut devenir super riche. En tout cas, ce matin, je vais vous donner un nouveau petit conseil avec ma chronique sur les erreurs de débutants. Qui sait, un jour peut-être. All I'm asking you is don't write me off just yet. Alors, amis autrices et auteurs, scribouilleuses et scribouilleurs, vous avez fini votre histoire ? Eh bien, bravo ! C'est une des étapes les plus gratifiantes du travail d'écrivain, l'une des plus frustrantes aussi. Pourquoi ? Parce que vous croyez que vous avez fini, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Un travail d'orfèvre vous attend encore, et oui, vous n'en êtes qu'au premier jet. Arrive le travail fastidieux, mais indispensable de la relecture et de la réécriture. Alors, un petit conseil déjà, laissez-vous quelques jours, voire quelques semaines, pour déconnecter de votre travail. Ensuite, relisez-le avec une grande attention. Une fois, deux fois, dix fois, autant qu'il le faudra. Prenez des notes si besoin en cours de lecture, corrigez les fautes, les erreurs de style et les maladresses que vous pouvez voir. Vous pensez que prendre un correcteur professionnel pourrait vous aider ? Très bien ! C'est souvent nécessaire, même quand on est soi-disant fort en orthographe. Vous pensez donc en avoir enfin fini avec votre manuscrit ?
Oui. Oh oui !
Et non, c'est une erreur de débutant. Vous écrivez pour être lu, en général. Alors, il ne faut pas négliger le rôle des alpha ou des bêta lecteurs. Alpha, bêta,
c'est qui cela ?
Quelle différence ? Voilà. Eh bien, un alpha lecteur va vous lire dès votre première phase d'écriture. Il va vous lire durant votre production au fur et à mesure que vous l'écrivez. C'est un recours pertinent dans le cas où vous écrivez assez rapidement pour le nourrir et pour qu'il ne perde pas le fil de votre histoire, ou si vous voulez vous assurer d'aller dans le bon sens de l'histoire, ou s'il s'agit d'une saga pour vérifier la cohérence au fil des tomes et au fil du... De l'histoire que vous écrivez actuellement. Et un bêta lecteur, c'est quoi ? Eh bien, c'est celui qui va lire votre premier jet à la fin de sa rédaction, après que vous l'ayez vous-même déjà relu. Et c'est utile pour avoir des premiers avis de lecteurs avertis sur votre production, et éviter de se prendre un mur de critiques au moment de la publication réelle. Donc c'est utile dans tous les cas. Comment choisir nos alpha ou nos bêta lecteurs ? Alors, il faut des personnes déjà qui lisent assez vite, parce que l'idée c'est qu'ils ne prennent pas l'année à lire votre roman. Des personnes qui ont donc du temps à consacrer à votre récit, qui sont volontaires pour ça. Pensez aussi à choisir les âges de vos alpha ou bêta lecteurs pour savoir à quelle cible votre récit correspond le mieux ou s'il est adapté à la cible que vous espériez. Vous pouvez bien sûr choisir des lecteurs dans votre entourage, mais attention, il faut être sûr que ces personnes vous donneront un avis sincère, même s'il est mauvais ou mitigé. Et ça, souvent, quand c'est des gens dans l'entourage, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on insiste des fois pour prendre des personnes plus neutres, des tierces, comme on va dire. Il existe d'ailleurs des groupes Facebook ou des sites web qui proposent de mettre à disposition leur communauté. Voilà, c'est le cas, par exemple, des sites Nouvelle Plume, Nouveaux Auteurs ou Fixia. Vous ne vous sentez pas prêt à prendre des bêta lecteurs ? Eh bien, demandez-vous pourquoi. Mieux vaut un premier lectorat honnête, volontaire et bienveillant pour vous remonter des critiques constructives que de se prendre un mur au moment de la publication. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Alpha, bêta lecteur, à vous de voir. C'est une approche en tout cas qui est constructive et participative de l'écriture. Et quand on écrit pour être lu, ben en fait il n'y a rien d'étrange quand on y pense. C'est aussi l'occasion de se lancer et d'arriver à mettre un point final à un récit. Parce que c'est tentant de vouloir toujours modifier, améliorer son récit. Et je sais à quel point c'est difficile de lâcher prise. Mais après le travail engagé avec ses premiers lecteurs, eh bien on peut prendre une grande inspiration et se dire sereinement: mon récit est fini.
Bravo.
Et oui, là, c'est bon, c'est fini pour de bon.
C'est plus vite raconté que ne dure toute cette longue expérience. Mais voilà, c'est le travail de l'écrivain.
Eh oui, ça va plus vite, effectivement, faire une chronique de 3 minutes dessus que de passer du temps, des heures et des heures à se relire et à corriger. Parce que après, puisque les bêta-lecteurs nous disent, il faut le reprendre et puis il faut le réécrire, il faut le recorriger, il faut voir dans quelle mesure c'est pertinent. Donc voilà. Mais ça finit un jour. Ça finit.
Mais c'est intéressant. Mais t'en vois le bout, quoi.
Oui. C'est bon. Mais en fait, c'est aussi une manière d'en voir le bout, quoi, finalement.
C'est pas un monde sans fin.
Non, heureusement. Parce qu'un jour, on peut les lire, les livres, pour de vrai.
Yes.
Et se faire relire, c'est bien. Mais pouvoir lire tout court, c'est mieux. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Marion et les handicaps en question abordent avec nous un sujet pas du tout dystopique.
Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ?
Bonjour, chères auditrices et auditeurs et chers co-animateurs. J'ai abordé dans mes dernières chroniques les handicaps visuels et auditifs ainsi que l'autisme. Nous allons aborder aujourd'hui un handicap dont beaucoup d'élèves ont souffert, ou en souffrent d'ailleurs encore aujourd'hui. Paresseux, tire-au-flanc, fainéant, écervelé, ramolli du cerveau, négligé, provocateur, balourd, empoté, et j'en passe. Ce sont nombre de réflexions entendues par les élèves et très souvent de la part du corps enseignant. De quel handicap je parle donc ici, dites-moi ?
Les 10.
Les 10. Les 10, oui, les 10. Mais pourquoi on dit 10 ? On a entendu parler de la dyslexie, évidemment. Mais en fait, il y a 6 catégories de troubles qui peuvent être parfois seuls ou associés entre eux. Le plus connu est la dyslexie. Mais pouvez-vous me la définir, cette dyslexie ?
Quand on échange les lettres ?
On inverse les syllabes ?
Alors, la dyslexie, effectivement, c'est la difficulté d'acquérir et d'avoir l'automatisation de la lecture. Alors, pourquoi on parle de dyslexie ? Souvent, quand une personne fait aussi d'énormes fautes d'orthographe. Ce n'est pas de la dyslexie, mais effectivement, les deux sont souvent associés. Là, on parle d'une autre catégorie qui est la dysorthographie et qui est un trouble là de l'acquisition et de l'automatisation de l'orthographe. Pour continuer dans les acquisitions scolaires, il y a aussi le trouble de l'acquisition des compétences numériques et des habiletés mathématiques que l'on va donc appeler dyscalculie. Eh oui, on n'arrive pas, on ne s'en sort pas avec nos chiffres, on mélange tout, on ne sait pas faire une addition, une multiplication. Impossible. Une autre des catégories peut générer des difficultés à l'école, mais souvent moindres, et va plutôt entraîner des difficultés au quotidien. C'est la dyspraxie, qui est le trouble de la conception, de la programmation et de la réalisation des gestes. En clair, la personne est maladroite, se mélange les pinceaux, les jambes, les pieds, la droite, la gauche, etc. Elle aura du mal à lancer un ballon, s'habiller ou découper sa viande. Et notre cinquième catégorie est directement liée, qui est la dysgraphie. Du coup, la difficulté à former les lettres et donc à écrire. Notre dernière catégorie dans ces 10 est la dysphasie, qui là souvent va entraîner des difficultés plus identifiables. Là, on parle d'un trouble d'acquisition et d'automatisation du langage oral. Donc là, la personne a vraiment du mal à parler.
On a du mal à articuler, en fait, c'est
articuler,
ça ?
Voilà, merci.
C'est ça que tu voulais dire,
un petit message. Ok, j'ai compris. La personne éprouve des difficultés pour comprendre les mots. On parle de dysphasie de réception ou pour les former, dysphasie d'expression. En fait, il y a deux sortes de dysphasie. Soit elle ne va pas les comprendre, elle ne va pas savoir répondre parce qu'elle ne comprendra rien, soit elle va comprendre, mais elle ne va pas savoir reformuler et répondre dans l'autre sens. Et dans ce trouble, la personne ne pourra pas récupérer de langage normal. Aujourd'hui, il n'est plus question de parler de retard intellectuel. Mais si on parle de 10, c'est donc un dysfonctionnement. Une petite piste. Qu'est-ce qui dysfonctionne ?
Le cerveau.
Le cerveau.
Le cerveau. Et oui, tout va se passer au niveau du cerveau. Allez, rapide, mais rapide cours d'anatomie, notre cerveau est divisé en deux, hémisphère droit et hémisphère gauche, mais également en lobes, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Ces différents lobes sont associés à différentes fonctions essentielles et à la mémorisation. Dans le cas des personnes atteintes de 10, une IRM montrera une activité moindre ou une absence d'activité de certaines de ces zones. Bien souvent, il ne sera pas possible de réactiver ces zones. Et donc, comment permettre à la personne d'acquérir ces apprentissages ? Eh bien, en utilisant les autres zones pour compenser les difficultés. Par exemple, pour un dyslexique, donc je redis, qui a du mal à lire, on va mettre des mots en couleur pour l'aider à les différencier. Donc, on va faire appel à une autre zone du cerveau qui est des couleurs. Pour un dysorthographique, on va associer les mots à une image, donc faire appel à une autre zone du cerveau qui est les images.
Aux bibliothèques de Compiègne, on a une collection qui s'appelle Édition Jeunesse Accessible et il y a plein de livres du coup comme ça pour aider à lire et tout ça. Et effectivement, je suis pas très forte sur ce domaine-là, mais il y a des mots en couleur dans les livres et tout pour qu'on arrive mieux à discerner les...
C'est ça, on stimule d'autres parties du cerveau et le cerveau est formidable, il sait se stimuler mais avec un peu d'aide. Alors aujourd'hui ça s'est beaucoup beaucoup développé dans les écoles même s'il y a encore des retards, c'est encore compliqué. Donc pour finir, parents, enseignants, entourage, observez bien et au lieu de vous fâcher parce que l'enfant n'arrive pas à refaire l'opération que vous venez à l'instant de lui poser, donc qui devrait être facilement refaite, ou qu'elle n'arrive toujours pas à faire ses lacets au bout du 20e essai, vous lui montrez, vous lui réexpliquez, il le fait, il le refait, il n'y arrive plus, peut-être proposer un rendez-vous chez un orthophoniste ou un ergothérapeute pour faire un petit test.
D'accord, orthophoniste pour tout ce qui est dyslexie, dysorthographie.
Voilà, dyscalculie éventuellement, ergo. Il y a des tests psychologiques de base aussi qui peuvent être faits à l'école. Il y a des écoles d'ailleurs qui mettent en place à l'acquisition de la lecture un truc très très simple pour distinguer les personnes qui vont avoir des troubles dyslexiques. C'est une petite règle, ça aide tout le monde à lire. Il y a une petite règle avec un trou au milieu pour suivre les mots. Et ben, si au bout de quelques mois, il y en a qui ont toujours cette règle, qui ont toujours besoin de cette règle pour pouvoir lire, c'est qu'il y a un problème de dyslexie.
D'accord.
Les enseignants sont beaucoup plus sensibilisés aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, on va dire.
Oui.
Ça se développe.
Et les livres, et les il y a des sites internet, il y a des applications maintenant pour tous les 10 pour les aider. Voilà.
Très bien. Bah merci beaucoup Marion pour cette chronique sur les 10. Notre émission touche à sa fin. Ne soyez pas tristes, chers auditeurs, nous reviendrons la semaine prochaine. On va terminer, comme d'habitude, en musique. Et c'est, puisqu'on a parlé ce matin de sexe, de richesse, de l'image de la femme, eh bien, je vous propose une musique de Gwen Stefani qui s'appelle Rich Girl.
Yes.
Nous allons finir avec ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Patty, Fatih, Marion et Benjamin, d'avoir été avec moi ce matin dans le studio de Radio Graphite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de la matinale
infernale.
Mais oui, on s'arrête jamais.
upside down. Chicks that blew your mind, ding, it's the second round.
Original track ending.
You know you can't buy these things,
no.
See Stefani and the Lamb, I rock the fetish people, you know who I am.
Yes, now we got the style that's wicked. I hope you can all keep